Nos rivières ont besoin d'être protégées. Mais comment y arriver si on les oublie ? Les humains vivent parfois au bord des cours d'eau, mais sans y penser. Ils puisent leurs eaux sans les regarder. Pour retisser les liens entre les rivières et nous, l'association Eau et Rivières de Bretagne et la région Bretagne ont lancé en 2021 l'Atlas socioculturel du Belon. D'autres ont suivi, le Lapic, le Léguerre, les Marais de Vilaine, la Rade de l'Orient avec le Scorff, le Blavet et le Terre, et enfin la Rance. Ce sont ces démarches que vous propose de découvrir ce podcast.
Bonjour à toutes et à tous. Comment les eaux de nos fleuves, de nos rivières peuvent dessiner de nouvelles frontières ? Autrement dit, comment peut-on repenser la notion de territoire à partir de nos cours d'eau, des eaux qui nous relieraient autour des mêmes enjeux dans nos bassins versants ? Nous parlerons de cette question passionnante dans quelques minutes avec Agnès Sinaï, journaliste environnementale et auteure, directrice également de l'Institut Momentum. Mais avant, direction la Rade de l'Orient où se jettent le Scorff, le Blavet et le Terre, un territoire qui a bénéficié depuis 2023 d'un atlas socioculturel porté par l'artiste Kizi Sokombe et soutenu par l'Orient Agglomération. Quelle est la vision des habitantes et des habitants de la Rade de l'Orient sur ce territoire, sur ses frontières et sur cette notion même de la Rade ? Réponse dans ce reportage signé Garance Diaconu de Radio Balise.
Quand on regarde une carte, que ce soit une carte marine ou une carte IGN, ben en fait la Rade de l'Orient n'existe pas. Il y a une carte marine qui s'appelle Passe et Rade de l'Orient. C'est pour désigner en fait l'endroit, mais quand tu ouvres la carte marine, c'est pas écrit Rade de l'Orient.
J'ai une approche de la Rade de l'Orient qui, de la notion de rade, qui vient du dictionnaire. Le mot rade, il a un sens en français, qui définit donc une notion d'abri pour des navires.
Pont du Bonhomme, là, tu vois.
Ouais, donc là.
Voilà.
Ouais.
Okay. Et puis toutes les côtes. Et la petite mer, pour moi, c'est la petite mer, c'est pas la rade. Ouais.
D'accord, donc je peux faire ça.
Voilà.
Ok. J'interprète vite, hein, mais c'est pour qu'on puisse.
Ouais. Voilà. Donc tu es pas allant à la base,
non ? Non.
Il y a une question que j'adore poser dans l'Atlas, c'est quelles sont les limites de la Rade de l'Orient ? Et il y a un jour, quelqu'un ici, là, qui est d'ailleurs, qui habite à Locmiquélic ou Port-Louis, je sais pas. Elle habite à Port-Louis. Et elle m'a dit qu'en fait, la frontière sud de la Rade de l'Orient, c'était Pondichéry. Tout comme il y a des gens qui vont me dire que la Rade de l'Orient s'arrête entre l'Armor et Port-Louis, et qu'elle s'arrête ici, au niveau du Rohu.
Kizi Sokombe est artiste cartographe. C'est elle qui est à l'initiative de l'Atlas socioculturel de la Rade de l'Orient. Depuis 2017, elle va donc à la rencontre des habitants et habitantes avec l'objectif de collecter leurs souvenirs et leur vision de la Rade.
Donc tout ça, on peut le représenter, par exemple. Tu vois, on peut dessiner de nouvelles zones sur des cartes avec des frontières et, ou pas, ou des frontières qui peuvent être floues, qui peuvent être nettes. Et ça, je le mets en forme graphiquement. Au début, j'avais commencé ce travail juste sur la rade. J'avais pas vraiment inclus les rivières, quoi. Et c'était une grossière erreur, en fait. Vraiment une grossière erreur. La rade, c'est un estuaire, quoi. Moi, j'ai quasiment découvert qu'il y en avait au moins 5. Si on fait un balayage comme ça, on a le Blavet, on a le ruisseau du Plessis, donc qui prend sa source à la Nestère ou peut-être Caudan. Là, on a le Scorff, là, dans l'Orient. Dans la continuité du port de Plaisance, on a le Faouédic, qui est la rivière qui passe sous l'Orient. Donc voilà, déjà une rivière invisible. Après, si on descend vers la base, entre la base et Château de Bleu, ben, on a la rivière du Terre, Ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5. Donc je tiens vraiment au fait que sur cet atlas apparaisse la voix des habitants du Scorff, du Blavet, du Terre, et puis ceux qui habitent sur les rives de la Rade, quasiment jusqu'à Portudis. Vous posez tous votre objet là, puis comme ça...
Et on le pose n'importe où
Tu poses, si c'est possible, si ça te parle, sur une des thématiques. Et moi, je viendrai mettre une petite gommette juste à côté pour... Et à la fin, on verra où se sont mis tous les objets. Comment ? Oui, voilà. Ouais. Chacun votre tour, vous allez expliquer votre objet. Vous pourrez vous présenter. Ce sera l'occasion de se présenter aussi, ce que vous faites. Et voilà.
Bonjour. Moi, je m'appelle Pierre Marcel. Je suis directeur d'une association qui s'appelle l'Association Salé. On est basé à Lorient et on s'occupe de faire découvrir la mer et l'océan à tous ceux qui n'y ont pas ou peu accès en organisant des projections de films toujours en lien avec le monde maritime. Moi, je suis né dans un chantier naval. J'ai été skipper pendant quelques années, des Penduic en particulier. Et donc, j'ai connu la base de Lorient militaire. J'ai amené le Penduic ici quand l'association s'est installée ici. Et puis après, j'y suis revenu pour le filmer. Et puis maintenant, je vis à Guidel et je vous ai ramené cette varlope là, qui est un outil de charpentier de marine qui appartenait à mon arrière-grand-père qui était à l'arsenal à Lorient et qui a construit plein de bateaux ici. Et voilà, et c'est le premier objet auquel j'ai pensé parce que c'est le premier qui est lié à moi et puis qui est lié à ma famille et à l'histoire de ma famille. C'est un objet qui est toujours d'actualité puisque Lorient est devenu et a toujours été un pôle mondial de la mer et des bateaux, que ce soit militaire, de commerce et aujourd'hui de course au large. Voilà.
Si je peux intervenir, j'ai failli amener un bateau, un modèle réduit de bateau qui avait été fabriqué par mon arrière-grand-père qui travaillait à l'arsenal de Lorient. Et si ça se trouve, nos arrière-grands-pères respectifs se sont peut-être croisés à l'arsenal.
Comme tous les arrière-grands-parents de Lorient.
Voilà. Autour du travail du
bon. Ouais.
Bah t'as vu dans quel état je suis là?
Ah ouais.
D'abord je suis chez moi. Déjà. Parce que c'est ma façon de vivre les lieux. Hein. Je suis à la maison. Donc. Je suis chez moi et pouvoir transmettre ce qui est mon lieu de vie, je pense qu'il y a déjà ça, ça me passionne beaucoup.
Soizic Luenanf est guide conférencière et historienne spécialisée de la Rade de Lorient. Elle a participé à l'Atlas socioculturel en proposant des balades commentées, comme ici au Fort de Gavre.
Quand on construit un bâtiment comme celui-là, on construit un bâtiment qui n'est pas du tout celui que nous avons là sous nos yeux aujourd'hui. C'est un bâtiment qui va être conçu sous le règne de Louis XIV. On est à la fin du XVIIe siècle et on est dans une période de tension extrême qui est dans un contexte de commerce maritime mondial vers l'Inde et la Chine en Europe, hein, et évidemment la période coloniale qui est en train de s'installer. Et dans ce contexte-là, on a ici... Dans ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de l'Orient, qui, à la fin du XVIIe, n'existe pas, ça ne veut rien dire du tout, eh bien on est en train d'installer, entre les mains de l'État, donc c'est Colbert Louis XIV, qui décide d'installer en fond de rade un chantier de construction de bateaux, de commerce et militaire. Et cette construction de bateaux de commerce et militaire donne naissance à une ville que l'on va appeler Lorient. Et il faut mettre une apostrophe pour se propulser en Asie, parce que sinon on ne comprend rien, et qui va donner naissance à la ville. Ce qu'on appelle la Bretagne aujourd'hui est une région européenne, continentale. On est au bout d'un continent eurasiatique, sur l'océan. On est à la pointe, hein, c'est pas du tout péjoratif. Hein, le Finistère, c'est la fin sur l'océan Atlantique. Et la région Bretagne, elle a une autre caractéristique géographique, c'est qu'elle est traversée de rivières et de fleuves, d'Aber, de Ria, d'Abri, de Rade, vous voyez, La rade, ça signifie autre chose, mais c'est pas grave. Des pénétrations comme ça, profondes, qui permettent à la fois de se protéger, d'être à l'abri des vents, de se nourrir, de s'installer. Ça permet aussi d'aller sur les mers du monde, hein, de s'ouvrir à l'extérieur, mais ça permet aussi d'accueillir.
La rade, c'est pas, en fait, c'est pas une frontière, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un lien, en fait, entre l'Orient et Port-Louis, entre Lanester et Portudy, entre Mélionnec et l'Armor, entre Bourbriac et Carvignac. Enfin voilà, ça a été un lien pendant, je pense, pendant très très longtemps, parce que les voies fluviales étaient hyper hyper utilisées. Et il y avait alors je dis pas que c'était mieux avant, mais c'est juste que je pense que les personnes, enfin les habitants avaient un rapport beaucoup plus proche aux rivières et au littoral. Il y a encore plein de pêcheurs, il y a encore des gens qui pratiquent, etc. Mais c'est les gens ont plus de distance, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, le rapport qu'on peut avoir à la rade, c'est juste, en tout cas aux rivières, c'est d'ouvrir son robinet et de boire son eau. Le fait de nommer un endroit, enfin, la rade de l'Orient, en fait, c'est une construction qu'on s'est faite autour de la rade. Mais historiquement, c'était la rade de Port-Louis, rade de Penmanet. Les noms changent par rapport à l'usage qu'on en fait. Et donc, en fait, sur une carte, quand on pose des choses, quand on nomme les choses, quand on met en valeur certaines choses, ben forcément, on leur donne plus d'importance. On les fait exister. Est-ce qu'on pourrait pas renommer la rade de l'Orient estuaire de l'Orient ? Il y a peut-être des gens qui vont être très fâchés quand je vais dire ça, mais historiquement, c'est un endroit très militaire. Mais on voit bien qu'ici, on est dans un espace partagé entre les militaires et tous les usages maritimes, plus les habitants. Donc, est-ce qu'on pourrait pas l'appeler la rade estuaire, et remettre justement les rivières au premier plan, pour les honorer, pour faire en sorte qu'elles soient aussi présentes dans cet environnement qui est très hybride.
Voilà pour ce reportage sur la rade de l'Orient, signé Garance Diaconu de Radio Balise, avec ses questionnements de ses habitants sur ses frontières, sur ses fonctions et sur un certain détachement finalement de ces mêmes habitants par rapport à ces affluents au fil du temps. Comment pourtant l'eau peut-elle relier des territoires, mais aussi mieux relier les habitants à ces enjeux qui sont cruciaux aujourd'hui ? Pour répondre à cette question, nous sommes en ligne avec Agnès Sinaï, journaliste environnementale et auteure et directrice de l'Institut Momentum. Bonjour Agnès Sinaï.
Bonjour.
Alors tout d'abord, comment réagissez-vous au reportage que l'on vient d'entendre ?
C'est un reportage très intéressant. Parce qu'on entend la voix des habitants, des habitantes qui expriment finalement le fait qu'à travers la géographie se joue aussi un sentiment d'appartenance à un territoire commun et que selon la manière dont on nomme ce territoire, les représentations ne seront pas les mêmes. Par exemple, s'agissant de la rade de l'Orient, puisque c'était le sujet de ce reportage, la rade relève d'un vocabulaire militaire, voire colonial, et fait remonter la mémoire à l'époque où l'Orient s'écrivait avec un L apostrophe, Orient comme oriental. Et finalement, la rade, c'est toute une histoire à la fois de puissance du port de l'Orient et de rayonnement vers les colonies. Et continuer à nommer cet espace rade, évidemment, ne va pas induire les mêmes représentations que si on nomme cet espace estuaire, par exemple, où vont plutôt se jouer des convergences des rivières et amener à revisiter ce qui fait vivre aujourd'hui cet espace. Voilà, donc j'ai trouvé intéressant ce jeu sur les mots, la manière de nommer la rade, qu'est-ce qu'elle veut dire et qu'est-ce qu'elle occulte peut-être aussi.
Ouais, peut-être le fait d'être relié justement à des rivières, puisqu'il y a des affluents à cette rade, et que l'artiste qui accompagne cet atlas socioculturel de la rade de l'Orient, à un moment donné, dit « mais au départ de mon travail, j'en avais presque oublié d'intégrer les affluents à la rade, tellement je travailler, moi, sur cet espace appelé RAD.
Voilà, exactement. Comme si cet espace était dissocié de ce qui lui permet d'exister, c'est-à-dire, comme vous le dites, un ensemble de rivières et un réseau hydrographique, même un ensemble d'affluents qui, finalement, débouchent dans cet estuaire et le constituent.
Alors, Agnès Inaï, vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « Écologie des biorégions » aux éditions Terre Urbaine, ouvrage qui va un peu sous-tendre notre discussion aujourd'hui. Mais tout d'abord, qu'est-ce que les biorégions ou le biorégionalisme ? Je ne dirai pas en quelques mots, mais en quelques phrases, si possible pour vous.
Le biorégionalisme, c'est une idée qui remonte aux années 1970, dans une Californie à l'époque animée d'une contre-culture et d'une certaine vie des idées et de la littérature. Et à l'époque, les premiers biorégionalistes californiens en appelaient à redécouvrir les vibrations de leur territoire sous les asphaltes des métropoles qui sortaient de terre dans les années 1920, 1930, 1950, à toute vitesse, Los Angeles, San Francisco, toutes ces immenses villes, d'après les premiers biorégionalistes, avaient occulté que ce qui compte d'abord, c'est de pouvoir vivre dans des mondes habitables. Et habiter, c'est pas seulement consommer de l'espace, c'est pas seulement détourner de l'eau pour alimenter des robinets dans les lotissements et les suburbs de Los Angeles, qui a été construite en fait au milieu d'un désert. Et justement, ce que pointent les biorégionalistes, c'est que ce qui nous fait vivre, c'est l'eau, c'est l'air, c'est la faune, c'est la flore. Et donc le biorégionalisme propose de développer une autre façon d'habiter les territoires et d'habiter le monde en proximité et aussi en relation avec les milieux vivants qui nous entourent.
Si je comprends bien, et c'est l'un des questionnements de votre ouvrage qui revient un peu à cette notion de frontières qu'on a entendue dans le reportage. Il y a les frontières historiques, l'histoire par exemple de la rade de l'Orient et sa connexion avec les comptoirs des Indes, l'Asie. Il y a les frontières aussi possibles de nos activités humaines pour ne pas dépasser les frontières écologiques. Et c'est cette question, pour vous, qu'il faut urgemment se poser aujourd'hui sur des territoires comme la rade de l'Orient ou d'autres territoires, celles des bassins versants notamment.
Excellente manière, en effet, de pointer l'importance de l'échelle que pointe la biorégion. La biorégion, c'est justement l'idée non seulement d'une région tournée vers les ressources et le soin des milieux naturels et vivants, mais aussi c'est une région à bonne échelle au sens où justement elle se préoccupe de s'auto-réguler de manière à ne pas trop peser sur le prélèvement de ressources et finalement ne pas causer une empreinte écologique disproportionnée. Or, on sait aujourd'hui qu'on vit au-dessus de nos moyens écologiques. Et comme vous le dites, nos sociétés industrielles reposent sur des hectares qu'on peut appeler des hectares fantômes, des colonies, bien sûr, autrefois. Aujourd'hui, bon, on importe beaucoup de pétrole, on importe beaucoup de ressources naturelles du monde entier. Donc l'idée de la bonne échelle biorégionale, c'est aussi de réduire notre empreinte écologique et de mettre en valeur les ressources en présence sans trop les abîmer.
Il y a une urgence aujourd'hui à repenser de cette façon ces territoires-là. Tout à l'heure, vous parliez de Los Angeles. Il y a d'autres endroits aussi où effectivement on constate que les dégâts sont énormes et que les usages humains sur les bassins versants sont aujourd'hui extrêmement visibles.
Mais malheureusement, c'est un peu partout le cas. Alors évidemment, aux États-Unis, c'est peut-être spectaculaire en termes d'échelle, notamment quand on voit par exemple comment le Colorado a été détourné par des barrages. Il a été complètement artificialisé sur quasiment tout son parcours, à tel point que ce delta du Colorado qu'un auteur américain qui s'appelle Aldo Leopold décrivait dans les années 1920 comme une sorte de paradis de la faune et de la flore et d'abondance de poissons, d'aigrettes, de lynx. Et donc il y bivouaque en 1920 dans ce delta du Colorado et il dit 30 ans plus tard qu'il n'oserait plus y retourner tant il aurait peur de ne pas reconnaître ce paysage, tant ce paysage en fait a été modifié à grande échelle par les activités humaines et notamment l'édification de barrages gigantesques. Donc ça c'est un exemple un peu extrême si vous voulez, mais il y en a sur toute la planète des exemples comme celui-ci.
Et plus proche de chez nous, en Bretagne, si on parle par exemple des embassements ou des algues vertes, on y est aussi en Bretagne, clairement.
On peut bien sûr atterrir en Bretagne et effectivement se poser la question de d'où viennent ces algues vertes, évidemment d'un modèle agricole productiviste qui fait qu'il y a au moins 8 cochons par habitant et donc beaucoup d'effluents qui se déversent dans les rivières et notamment le Gouët qui est une des rivières qui se jette dans la baie de Saint-Brieuc. Donc dans ces rivières-là, il y a un problème effectivement d'effluents d'azote. Il y a aussi le problème de l'envasement consécutif à ces effluents de la baie elle-même, de Saint-Brieuc, qui s'envase et qui est propice à l'apparition de ces algues vertes qui elles-mêmes prolifèrent en raison du réchauffement climatique. Ça, c'est pour ce qui concerne l'aval, mais en amont aussi de ce Gouët se trouve un barrage, le barrage de Saint-Barthélemy, et ce barrage qui a été construit dans les années 70, au début des années 70, finalement n'est plus peut-être adapté aujourd'hui aux préoccupations actuelles qui peuvent animer certains riverains comme des pêcheurs qui connaissent très bien ce bassin versant et qui ne voient plus jamais, par exemple, remonter de saumon, ou d'anguilles dans ce Gouët qui, il y a quelques décennies, était encore plein de vie. Donc, comment arbitrer entre des usages humains liés à la nécessité de prélever de l'eau pour la potabiliser dans des usines géantes, hein, comme celle de Ploufragan, et d'autres considérations liées aux équilibres écologiques et à la vie même qui nous entoure.
Et vous parliez par exemple d'effluents agricoles, mais ce ne sont pas les seules causes. Il y a le fait qu'on a modifié le lit des rivières, qu'on les a canalisés, qu'on a bétonné aussi beaucoup, ce qui modifie aussi les facultés de résilience finalement de ces rivières, Agnès Sinaï.
Oui, très juste. Et on l'a bien vu à Valencia en Espagne, il y a quelques mois, quand il y a eu ce déluge et la rivière a débordé, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu énormément de dégâts matériels parce que cette rivière de Valencia était complètement artificialisée, harnachée, comme on dit en anglais, harnessed, une rivière harnachée par du béton canalisé qui n'a plus rien à voir avec sa forme naturelle d'origine et qui va déborder avec violence en cas de pluie intense. Et donc ce phénomène de crue est lié bien sûr à l'artificialisation et risque de se multiplier. Donc on a tout intérêt à renaturer les rivières, comme c'est le cas par exemple près de Lannion, le Léguer, hein, qui est donc un fleuve côtier qui a été libéré de son barrage et renaturé. Ce qui permet aussi aux léguères, finalement, de ne pas déborder lors de crues importantes et de jouer un rôle de tampon, finalement. Hein. Donc voilà, on a aussi intérêt à faire revenir des alliés comme les castors qui contribuent en construisant des petits barrages de bois qu'ils prélèvent, eh bien, à réguler aussi le débit des fleuves et des rivières.
On est parti de la rade de l'Orient, on est passé par les États-Unis pour avoir quelques exemples assez probants de ces dégâts liés à l'activité humaine sur les fleuves et les rivières. Et puis on revient au Léguer, qui est une des rivières aussi qui a bénéficié d'un atlas socioculturel en Bretagne. Alors on va quitter quelque peu la Bretagne, puisque vous avez également participé en 2024 à un article intitulé « Pour une Europe des rivières ». C'était pour le magazine Reporter. Et là aussi, la question de l'eau et des frontières était centrale dans ce travail, avec toujours cette notion de biorégionalisme. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous défendez finalement aussi quand on reprend cette expression « l'Europe des rivières » ?
Oui, à l'époque où j'ai répondu à cet entretien avec Reporter, c'était il y a un an, dans le contexte de préparation des élections européennes, dans un contexte de montée des nationalismes. Et l'idée d'une Europe des rivières, c'est une manière finalement d'opposer une autre vision du territoire plutôt qu'une Europe découpée en États-nations nationalistes revendiquant des frontières imperméables. Pourquoi ne pas se représenter l'Europe par ses rivières et ses fleuves qui interconnectent les pays frontaliers, hein, par exemple l'Allemagne et la France, le Danube avec l'Autriche et la Hongrie. Et voilà, en fait, ce réseau naturel désarme cette vision étriquée des nationalismes, fait surgir les interdépendances et les collaborations de toute façon nécessaires et existantes, interfrontalières, pour partager les ressources et les réguler en commun. Donc, on parle beaucoup de Green Deal, d'Europe, de la voiture électrique, d'industrie verte, mais on parle pas assez de cette Europe des rivières. Et effectivement, c'est plus important, à mon avis, d'avoir de l'eau de qualité que des voitures électriques au bout du compte. Surtout aujourd'hui, où on voit qu'il y a des problèmes de canicule. Donc, c'est très important de cultiver ce réseau hydrographique et de concevoir l'Europe comme un espace habitable avant tout.
Donc, redessiner les frontières en fonction plutôt des milieux, en fonction de l'espace, de ces rivières, de ces fleuves, de ces cours d'eau, au final permettrait de mieux les protéger. C'est ce que vous dites finalement et ce que vous défendez.
Oui, parce que ça ferait émerger une autre conscience, si vous voulez, tourner les priorités vers cette Europe des rivières. Ce serait mettre en valeur ce qui est plus qu'un patrimoine, hein, ce qui est un véritable système veineux, les veines de la terre, hein, quand on dessine l'ensemble des affluents, des sources, des rivières, des fleuves, on remarque que ça ressemble à un système veineux. Les veines de la terre sont irriguées par l'eau qui y coule, et donc, à mon avis, c'est le sujet numéro un des décennies à venir. Parce que si nous venions à manquer d'eau, nous manquerions finalement de tout, c'est-à-dire de la possibilité même de perdurer sur un territoire.
Agnès Sinaï, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste environnementale et auteur et directrice de l'Institut Momentum, réseau de réflexion sur les politiques de l'Anthropocène, concept d'une nouvelle ère géologique sous l'empreinte humaine, mais aussi sur les thématiques des effondrements et la décroissance. Le site internet de l'Institut Momentum, institutmomentum.org. Rendez-vous également sur le site raddelorient.atlas-rivière.com où vous pourrez retrouver la parole des habitants, des cartographies, des graphiques, des audios et des photos sur le travail en cours avec cet atlas socioculturel sur la rade de Lorient. Retrouvez cet épisode en podcast sur le site corla.org. Merci beaucoup Agnès Sinaï.
Merci.
À bientôt donc pour un nouvel épisode de Rivéricie consacré aux atlas socioculturels des rivières de Bretagne. Et d'ici là, eh bien, selon la formule consacrée, désormais, prenez soin de vous et donc prenez soin de vos cours d'eau.
C'était Rives et Récits, une série de podcasts proposés par les radios de la CorLab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne, l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne.